Salut tout le monde! Aujourd'hui, notre exploration plonge vraiment au cœur des dynamiques médiatiques contemporaines.
Bonjour, oui, un sujet super vaste, mais on a de quoi faire aujourd'hui.
Ouais, parce que les sources qu'on a sur la table pour cette session, elles se concentrent sur un document très précis. C'est un manifeste.
Un manifeste qui fait aussi office de texte promotionnel et identitaire d'ailleurs.
C'est ça. Il a été publié par la plateforme Radio Tam Tam Afrique sur leur site internet. Et le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer la façon dont ces nouveaux médias indépendants se positionnent en fait pour combler les lacunes laissées par la presse traditionnelle.
Exactement, voir comment ils redéfinissent complètement la circulation d'informations pour l'Afrique et sa diaspora.
Voilà. Et pour bien saisir l'enjeu de ce texte, je me disais qu'on pouvait faire un parallèle avec l'histoire de la cartographie.
Ah oui, la fameuse analogie des cartes, j'aime bien.
Bah oui, parce que quand on observe une de ces très anciennes cartes du monde, tu sais, celle dessinée à la Renaissance.
Ouais, celle sur parchemin avec des dessins un peu partout.
Voilà, le contraste, il est saisissant. Les régions qui étaient familières aux cartographes de l'époque, typiquement l'Europe, elles bénéficient d'une précision fascinante, en fait.
C'est clair, on voit tous les détails.
Ouais, les rivières sont tracées, les moindres petits villages sont nommés. L'espace, il est dense, il est visible, hyper détaillé.
Et dès que le regard glisse vers le sud ou vers les marges du parchemin en général, la précision disparaît totalement.
Plus rien, le vide.
On profite d'immenses étendues blanches, quoi. Et parfois, c'est simplement décoré avec la mention Terra Incognita.
Ou alors des monstres marins.
C'est ça. Des créatures mythologiques, juste destinées à masquer le manque de données réelles au final.
Et en fait, cette représentation, elle crée une illusion hyper tenace, presque inconsciente. L'idée que, dans ces vastes espaces blancs, il ne se passe absolument rien de complexe ou de digne d'intérêt.
C'est un biais énorme.
Exactement. Or, quand on observe le paysage médiatique mondial aujourd'hui, franchement, on ressent souvent que le journalisme, il navigue encore avec ce type de carte.
Ah, complètement. Les détails s'accumulent là où un groupe très restreint de décideurs éditoriaux choisit de regarder. Et ça laisse des continents entiers dans un flou total.
Et justement, le texte de Radio Tom Tam Africa, il attaque ce problème de front, non?
Ouais, direct. Il pose un diagnostic très clair dès les toutes premières lignes de la source. Il dit que certains sujets, pourtant vitaux pour le continent africain et sa diaspora, ils sont systématiquement relégués au second plan par ce qu'ils appellent les grands médias.
Et c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une censure active ou d'un grand complot mondial.
Non, c'est pas du complotisme. C'est vraiment une mécanique de hiérarchisation de l'information. Dans une salle de rédaction traditionnelle, basée à Paris, Londres, New York, l'actualité africaine, elle peine très souvent à franchir ce fameux seuil de ce qui est jugé prioritaire.
Prioritaire pour un public qui est perçu comme centré sur lui finalement.
Voilà, exactement.
Moi, ça me fait penser, on pourrait comparer les grands médias à un projecteur de théâtre, tu sais, très resserré.
Ah ouais, la poursuite au théâtre.
C'est ça, ce faisceau hyperpuissant, il n'éclaire qu'un cercle minuscule en plein centre de la scène. Et si l'action s'y déroule, le moindre mouvement est scruté par le monde entier.
Mais le reste est dans le noir.
Ouais, ce faisceau, il laisse dans l'ombre une multitude d'intrigues cruciales qui se jouent juste là, sur les côtés. L'obscurité, dans ce cas, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'action, ça signifie juste qu'il n'y a pas d'intention.
C'est une super métaphore, hein.
Et du coup, ça m'amène à une notion qui est très provocatrice dans ce manifeste. Je suis tombée dessus et ça m'a fait tiquer.
Qu'est-ce qui t'a fait tiquer?
Le texte, il revendique haut et fort une information, et je cite, engagée. Franchement, ça me heurte presque un peu en tant que journaliste.
Ah bon? Pourquoi?
La règle d'or du journalisme qu'on enseigne traditionnellement, c'est la neutralité absolue, non? La froideur des faits, la distance. Du coup, revendiquer un engagement, est-ce que c'est pas franchir la ligne dangereuse du militantisme politique? On ne perd pas en crédibilité là.
Alors, c'est une excellente question. Mais il faut voir que cette neutralité absolue, c'est dans bien des cas un mythe éditorial super commode.
Comment ça, un mythe?
Prends un exemple. Quand un grand journal télévisé choisit d'accorder 20 minutes à une polémique politique locale en Europe et seulement 30 secondes à une crise sociale majeure qui touche des dizaines de millions de personnes sur le continent africain,
Ouais, ce qui arrive tous les jours.
voilà, ce choix, il n'a absolument rien de neutre. Il reflète un biais lourd.
Ah, je vois ce que tu veux dire.
Dans un contexte où la relégation au second plan s'est devenue la norme, la position neutre consiste paradoxalement à juste maintenir le statu quo de cette invisibilité.
Donc, ne rien changer, c'est déjà prendre position.
Exactement. L'engagement qui est revendiqué ici par la plateforme Radio Tom Tam, il agit vraiment comme un contrepoids délibéré à ça.
Du coup, l'indépendance éditoriale dont parle le texte, c'est pas forcément Une indépendance vis-à-vis d'une idéologie politique?
Non, pas du tout.
C'est plutôt une indépendance face aux agendas économiques ou géographiques qui d'habitude dictent ce qui mérite d'être mis dans la lumière du projecteur, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Le texte y suggère en fait que militer pour l'existence même d'une information complète et nuancée, bah, c'est en soi un engagement.
Ouais.
C'est la volonté d'empoigner ce fameux projecteur théâtral dont tu parlais et de le forcer à éclairer les côtés de la scène. Un média généraliste traditionnel, il aura toujours, toujours d'autres priorités.
C'est sûr.
En déclarant que son centre de gravité unique, c'est l'Afrique et sa diaspora, cette plateforme, elle s'affranchit des contraintes qui rendent ces populations invisibles partout ailleurs.
Mais du coup, cette volonté d'éclairer les angles morts, franchement, ça pose un défi technique et éditorial immense.
Ah oui, c'est pas simple à mettre en place.
Surtout quand on lit la suite. Le texte, il affirme vouloir fournir, je cite encore, des actualités africaines pertinentes, des analyses, des décryptages. Et moi, c'est ce mot décryptage qui me pose question.
C'est-à-dire?
Bah, très souvent, dans le vocabulaire médiatique contemporain d'aujourd'hui, décrypter, ça rime un peu avec simplifier.
Ah, dans le sens on mâche le travail.
Voilà, on a tendance à utiliser ce terme pour justifier un vrai nivellement par le bas, sous couvert de rendre l'information accessible. D'ailleurs, accessible, c'est un autre mot qui est présent dans le manifeste.
Oui, tout à fait.
Donc je me dis, est-ce que c'est pas le risque ici? Est-ce qu'on va résumer des enjeux géopolitiques hyper complexes en petites puces de trois mots pour une consommation rapide sur téléphone?
Alors, l'analyse de leurs promesses éditoriales, elle montre vraiment une intention inverse.
Ah oui?
Ouais. Fournir un décryptage dans ce contexte spécifique, c'est au contraire fournir le code source culturel, historique et politique qui manque cruellement dans les dépêches des grandes agences internationales.
D'accord.
Prenons un exemple hypothétique, mais qu'on voit très couramment. Imaginons une manifestation de grande ampleur dans une capitale ouest-africaine.
Ok, je vois le genre.
Un grand média traditionnel, souvent il va traiter l'événement sous l'angle du fait divers ou alors de la crise sécuritaire, un peu brute.
Oui, on va nous montrer des pneus brûlés, des foules en colère.
C'est ça. On donne un bilan chiffré des affrontements et paf, le reportage de 40 secondes, il est terminé.
C'est vrai. Et du coup, l'événement, il est couvert factuellement. On ne peut pas dire le contraire.
Oui, les faits sont là.
Mais il reste totalement incompréhensible. Le téléspectateur lointain, bah, il retient juste une image de chaos stéréotypée, quoi.
Bah voilà. Et le décryptage dont parle le manifeste, il intervient précisément pour déconstruire cette image.
C'est-à-dire ?
En allant plus en profondeur. Expliquer que bah, ces manifestations, elles ne sont pas spontanées. Elles s'enracinent peut-être dans, disons, un traité commercial qui a été signé 10 ans plus tôt.
Ah oui, un traité qui aurait étouffé l'agriculture locale, par exemple.
Voilà, exactement. Le décryptage, il va détailler les dynamiques démographiques de cette jeunesse qui descend dans la rue, les clivages au sein du parti au pouvoir, ou même l'influence d'acteurs économiques extérieurs.
Ah, je comprends mieux.
Donc, l'accessibilité dont parle le manifeste, ça ne consiste absolument pas à amputer la réalité de sa complexité. C'est supprimer les barrières à la compréhension en fournissant enfin le contexte qui manque.
C'est l'idée que l'information brute, livrée sans son historique, bah, elle est foncièrement inaccessible en fait.
C'est exactement ça. Sans les clés de lecture, la porte du sujet reste fermée à double tour.
Et c'est là que la mention pertinente associée à analyse prend tout son sens dans le texte. Il s'agit de filtrer le bruit ambiant pour extraire ce qui a un impact réel sur la vie des populations concernées.
C'est le cœur de leur stratégie de contenu.
Mais ça soulève un autre paradoxe fascinant dans ce document, enfin moi je trouve.
Vas-y, je t'écoute.
Le public cible, il est défini de manière super répétitive comme l'Afrique et sa diaspora.
Oui, ils insistent beaucoup là-dessus.
On parle d'un média qui cherche, je lis la source, à mieux comprendre les réalités de ces deux mondes. Sur le papier, franchement, ça ressemble à la construction d'un immense pont numérique.
Une belle image, ouais.
Mais concrètement, les réalités quotidiennes d'une personne vivant à Nairobi, à Dakar ou à Kinshasa, bah, elles semblent matériellement, économiquement et socialement à des années-lumière de celles d'une personne issue de la diaspora qui vit à Montréal, Paris ou New York, non ?
Sur le papier, oui. Le fossé a l'air énorme.
Du coup, est-ce que c'est pas complètement utopique, voire même contre-productif, d'essayer de s'adresser simultanément à des publics dont les préoccupations immédiates sont si éloignées?
Alors, c'est là qu'il faut faire attention aux mots choisis. L'utilisation du pluriel dans le texte, quand il évoque les réalités, bah, ça démontre une conscience très claire de cette disparité.
Ah, ils disent « les réalités » au pluriel?
Exactement. Le média ne prétend absolument pas qu'il existe une seule expérience monolithique, genre une seule façon d'être africain ou de faire partie de la diaspora.
D'accord. Donc, ils reconnaissent la différence.
La pertinence de lier ces deux mondes, elle réside dans les mécanismes profonds de l'économie et de l'influence politique d'aujourd'hui. Le continent et sa diaspora ne vivent peut-être pas dans le même fuseau horaire, ni dans le même climat social.
C'est sûr.
Mais ils sont liés par un système de vases communicants extrêmement puissant.
On pense immédiatement au transfert de fonds.
Ah bah c'est l'exemple le plus quantifiable, oui.
Ouais, la diaspora qui envoie de l'argent aux familles restées sur le continent, ça pèse parfois bien plus lourd dans le PIB national d'un pays que l'aide internationale au développement.
C'est énorme. Mais l'interaction, en fait, elle va bien au-delà de l'argent. Une diaspora informée et mobilisée, ça exerce un poids politique vraiment considérable.
Comment ça ?
Bah, elles peuvent faire pression sur les gouvernements occidentaux concernant leur politique étrangère en Afrique, par exemple.
Ah oui, c'est le lobbying citoyen, en quelque sorte.
Voilà. Et inversement, les crises politiques, les innovations culturelles, ou même les percées technologiques sur le continent, bah, ça a un impact psychologique et identitaire direct sur la diaspora.
C'est fascinant quand on y pense comme ça.
Si un média ne cible que le public local, il ignore complètement la force de frappe financière et diplomatique de la diaspora.
Et s'il ne cible que la diaspora, il coupe cette dernière de ses racines sur le continent.
Exactement. Donc traiter ces réalités simultanément, bah, ça crée un espace narratif commun où chaque groupe comprend comment ses propres actions influencent l'autre.
En fait, l'information devient l'infrastructure de cette relation.
C'est une belle façon de le dire.
J'imagine un lecteur à Paris qui lit un article décrypté sur une réforme foncière au Sénégal. Il comprend l'enjeu et boum, il modifie la façon dont il investit ou dont il conseille sa famille rester sur place. La boucle est bouclée.
C'est très concrètement comme ça que ça marche, ouais.
Cependant, pour faire exister cet espace narratif commun, je me doute que les grands principes éditoriaux, ça ne suffit pas. Et c'est là que la source étudiée bascule soudainement vers un ton beaucoup plus pragmatique.
Très ancré dans le réel.
Ouais, très ancré dans la mécanique des réseaux sociaux. Je te lis le manifeste, accroche-toi.
Vas-y.
Abonnez-vous en un clic à notre page Facebook, activez les notifications et rejoignez une communauté. Et c'est suivi d'une directive très courte. Informez-vous, partagez.
Oui, on a tous entendu ça 1000 fois.
Bah voilà, je suis obligée de faire l'avocat du diable ici. Chaque créateur de contenu sur Internet, que ce soit le vulgarisateur scientifique sur YouTube ou l'influenceur lifestyle sur Insta, il martèle cette consigne de s'abonner et d'activer la cloche.
C'est la base, oui.
Donc, est-ce qu'on ne risque pas de surinterpréter ce qui n'est finalement qu'une banale stratégie de marketing digital destinée à tromper l'algorithme ?
Alors, l'objection est parfaitement légitime. Hors contexte, c'est vrai, ces injonctions, c'est l'espéranto du marketing numérique de base.
C'est ça, le truc automatique.
Mais là, il faut analyser le mécanisme de la distribution de l'information pour des communautés qui sont marginalisées ou dispersées géographiquement. Un grand média traditionnel, il a quoi ?
Bah, il a des antennes, des fréquences.
Des antennes de diffusion, des partenariats de syndication, des accords avec les fournisseurs d'accès, des kiosques. Sa distribution, elle est assurée par son simple poids institutionnel.
Ouais, il est déjà partout par défaut, en fait.
Exactement. Mais une plateforme indépendante, surtout si elle est axée sur des sujets souvent boudés par les algorithmes généralistes, bah, elle ne dispose pas du tout de cette infrastructure.
Ah bah non. L'algorithme d'une plateforme comme Facebook, il ne va pas naturellement propulser un décryptage géopolitique hyper pointu sur l'Afrique de l'Est en tête de son fil d'actualité mondiale.
Sûrement pas. Parce que ce n'est pas ça qui génère le plus de rétention d'attention à l'échelle globale. Les algorithmes, ils aiment le clash ou le divertissement.
C'est clair.
Donc, le seul moyen de contourner cette invisibilité algorithmique pour eux, c'est l'action humaine délibérée.
L'action humaine ?
Ouais. Quand le manifeste demande de partager et d'intégrer une communauté, il ne cherche pas seulement à gonfler des statistiques de vanité pour vendre de la pub. Il opère un vrai transfert de responsabilité.
Comment ça, un transfert ?
Puisque l'écosystème médiatique dominant, il refuse d'être le canal de distribution de ces réalités, bah, le média demande à ses propres auditeurs de devenir eux-mêmes l'infrastructure de diffusion.
Oh wow.
C'est-à-dire que le public devient le diffuseur.
C'est ça.
Dans le contexte de la diaspora, un groupe Facebook fermé ou un canal de messagerie WhatsApp, ça devient un relais critique. Partager un article pertinent dans ces réseaux, c'est pallier directement l'absence de ce sujet aux heures de grande écoute à la télé.
Le lecteur, il passe d'un statut de consommateur passif, tel qu'il l'était devant son poste de télévision il y a 20 ans, à un rôle de distributeur actif. Total de la diffusion de l'information. Informez-vous, partagez. Ça devient moins une petite astuce pour gagner des clics qu'une vraie consigne de survie informationnelle, en fait.
C'est de la survie. La communauté, elle doit s'auto-alimenter si elle veut exister dans le paysage public global.
Franchement, toute cette architecture, le constat de l'invisibilité, la stratégie du décryptage rigoureux, l'union du continent et de la diaspora, et la mobilisation numérique, bah, ça culmine dans une philosophie globale hyper marquée à la fin du document.
Oui, la conclusion du manifeste est forte.
Le manifeste se clôture sur un impératif tuant. Faites entendre la voix de l'Afrique, et il s'appuie sur une devise, je la trouve très puissante, Radio Tam Tam Afrique. La parole est une force.
La parole est une force, ouais.
D'ailleurs, le choix du nom mérite qu'on s'y arrête deux secondes. Le tam-tam, le tambour, ça porte une charge symbolique énorme, non?
Ah oui. Historiquement, bien avant l'électricité et Internet, le tam-tam, c'était la technologie de télécommunication par excellence en Afrique.
Oui, un instrument qui était capable de relayer des messages hyper complexes.
D'alerter, de rassembler des communautés à travers de vastes distances, de village en village.
La reprise de ce nom pour une plateforme sur Internet, je trouve que ça établit un pont fascinant entre la technologie ancestrale et le réseau numérique moderne.
C'est super malin.
Mais c'est vraiment cette idée de « la parole est une force » qui m'interpelle le plus. L'information dans notre monde, elle est souvent vue comme un simple produit de consommation courant, non?
Oui, un flux de données qu'on fait défiler machinalement sur son écran.
Le fameux « doom scrolling ». Mais ici, on lui attribue une fonction presque émancipatrice.
L'analyse de cette devise, elle révèle vraiment la dimension performative de tout ce projet.
Performative ? Tu peux expliquer ?
Oui. Dans un environnement global où le silence ou la relégation sont imposés par des structures éditoriales extérieures, bah, le simple fait de prendre la parole, c'est énorme.
Ouais.
Le fait de raconter sa propre histoire avec ses propres termes, ça dépasse largement le cadre de la petite communication classique. C'est un acte de pouvoir.
Ah oui, je vois. Donner de la voix à ceux qui subissent l'obscurité du projecteur, c'est transformer un récit en une force de changement tangible.
C'est ça. C'est refuser de se laisser effacer.
Le terme performatif est super bien choisi, du coup. La parole, elle ne se contente pas de décrire une réalité qui existerait indépendamment d'elle. Elle contribue activement à faire exister cette réalité sur la scène internationale.
Tout à fait. Si on ne parle pas de vous, politiquement et socialement, bah vous disparaissez purement et simplement le processus de décision.
C'est effrayant, mais c'est vrai.
Le processus décrit tout au long de ce manifeste, au final, il forme un cycle ultra cohérent.
Comment ça se résume alors, ce cycle?
L'indépendance financière ou structurelle de la plateforme, déjà, ça permet d'échapper aux agendas imposés.
Ok, étape 1, la liberté éditoriale.
Ensuite, cette liberté, elle ouvre la voie à un véritable décryptage des réalités complexes dont on a parlé.
Le fameux contexte historique et politique.
C'est ça. Et ce décryptage, il est ensuite injecté dans les réseaux sociaux où une communauté super active, composée de la diaspora et du continent, s'en empare pour le diffuser massivement.
Via les groupes Facebook, WhatsApp, etc.
Voilà. Et l'agrégation de tous ces partages individuels finit par percer le mur du silence algorithmique et force l'attention internationale. La parole, qui était initialement isolée, elle devient bien cette force incontournable capable d'influencer les perceptions.
Et potentiellement les politiques, derrière.
Exactement.
Bah dis donc, le parcours intellectuel qui est proposé par ce tout petit texte promotionnel, il est d'une densité remarquable quand on prend le temps de le décomposer comme on vient de le faire.
Oui, on ne s'attend pas à autant de profondeur dans un onglet à propos d'un site web, c'est clair.
C'est sûr. Notre exploration, pour ceux qui nous écoutent, ça nous a vraiment permis de mettre en évidence une chaîne logique implacable aujourd'hui. Tout part d'un constat critique. La reconnaissance d'un vide abyssal laissé par l'étroitesse du projecteur des médias traditionnels.
Notre fameuse carte de la Renaissance avec ses immenses zones blanches.
Oui, la terra incognita. Et pour combler ce vide, bah, la solution proposée par ces nouveaux médias, ce n'est surtout pas la simplification à outrance.
Non, c'est l'exigence d'un décryptage qui fournit enfin le contexte culturel et politique nécessaire.
Tout à fait.
Et la viabilité de tout ce projet, elle repose sur... Bah, la compréhension fine des mécanismes de notre époque, en fait. C'est-à-dire utiliser le tissu conjonctif de la diaspora pour créer une audience vraiment globale.
Et s'appuyer sur la technologie des réseaux, les likes, les partages, les groupes, pour contourner tous les blocages traditionnels de la distribution médiatique.
Exactement.
Jusqu'à l'aboutissement philosophique où l'information retrouve vraiment son statut premier. Non pas un simple bien de consommation rapide, mais une voie qui... en refusant d'être ignoré, se transforme en véritable outil d'empouvoirment.
L'empowerment, lui, c'est le mot-clé. Ce document, au-delà du cas spécifique de Radio Tam Tam Africa, bah, il nous fournit un schéma directeur pour comprendre comment des communautés marginalisées peuvent construire elles-mêmes leur propre écosystème informationnel de A à Z.
Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'analyse d'aujourd'hui. Ça soulève, pour notre audience, une réflexion finale vertigineuse, je trouve, qui dépasse largement le cadre de cette seule initiative.
C'est-à-dire ?
Bah, si l'on projette cette dynamique dans l'avenir très proche, imagine, si la multiplication de toutes ces initiatives indépendantes, des plateformes capables de décrypter finement les réalités locales, si elles réussissent à capter massivement l'attention et la confiance de diasporas entières à travers le monde.
Oui, en leur offrant enfin cet espace de représentation qu'elles réclament.
Exactement. Eh bien, face à ce basculement, on peut se demander, les grands médias traditionnels, est-ce qu'ils ne seront pas un jour contraints de revoir de fond en comble leurs propres modèles éditoriaux pour survivre à cette concurrence d'un genre nouveau ?
C'est la grande question.
Ou alors, aveuglés par leur propre héritage, est-ce qu'ils risquent pas de s'isoler progressivement jusqu'à perdre toute crédibilité, regardant leurs anciennes cartes devenir complètement obsolètes à mesure que la fameuse terra incognita s'éclaire par elle-même, finalement ?
Ça laisse de quoi réfléchir pour la suite, c'est sûr.
Tout à fait. Merci de m'avoir accompagné pour cette analyse et merci à tous d'avoir suivi notre exploration. À très vite !